France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Impossible d'y échapper, Gilles et Natacha, c'était la polémique de la semaine, partie de Twitter pour devenir une affaire d'État selon le Washington Post. En tout cas, une tempête politique autour d'un hijab de running de marque Decathlon. Écoutez quelques-unes des réactions contre ce vêtement de course.
Tout ce qui peut enfermer la femme, fût-ce au nom d'une ritualité qui n'est pas la valeur profonde d'une religion, ça je n'ai pas envie de le partager.
Personnellement, je n'ai pas envie qu'on favorise la différenciation entre les femmes et les hommes.
Si on cède à cet islamisme radical qui pourrit la France, qui déconsidère les Français musulmans qui pratiquent leur foi tranquillement et qui ne veulent pas être l'otage des salafistes, on est foutu.
Vous aurez reconnu les voix du président du Sénat, Gérard Larcher, de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et du président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Un mélodrame, un psychodrame, une histoire très française, Natacha.
Oui, très française dans le sens où nous avons une conception de l'espace public qui est très spécifique. Et quand le Washington Post écrit sur ce sujet-là, c'est comme à chaque fois pour se faire un plaisir d'expliquer que nous sommes islamophobes, ringards, racistes. Non, il s'agit d'une différence culturelle et j'allais dire d'une bataille culturelle entre la vision anglo-saxonne de l'organisation de l'espace public et la vision française. Alors dans cette vision française, rappelons-le tout de même, on est libre de porter le voile dans l'espace public.
Oui. Hein,
c'est la base. Point. Voilà. Donc ce n'est pas une question juridique.
Le politique justement demande le retrait d'un article qui n'est pas interdit par la loi.
Oui. Parce que c'est une question de mœurs.
On va en parler justement, alors, Gilles.
Polémique de 24 heures, comme on en a beaucoup, mais sur un sujet récurrent. Je crois qu'il y a plusieurs enseignements. D'abord, il y a un enseignement politique, c'est que ce sujet du voile qui est venu traverser chacune des familles politiques est en train de traverser de manière extrêmement violente la majorité elle-même, le groupe parlementaire, le gouvernement, faute depuis 2 ans d'avoir su élaborer une doctrine et un discours notamment du président de la République. Deuxième enseignement, d'un point de vue économique, quand on regarde la société Decathlon, il y a, pour elle comme pour toutes les sociétés, une bataille entre ce que les anglo-saxons appellent les stakeholders et les shareholders, c'est-à-dire les actionnaires, les stakeholders, et les parties prenantes, notamment les consommateurs, les shareholders. Et on assiste à un rééquilibrage, qui est un phénomène relativement nouveau. Depuis quelques années, les actionnaires ont un peu moins de poids et les consommateurs, les clients ont du poids, on le voit. Et puis, dernier enseignement là qui concerne la société française, c'est une bonne illustration de quelque chose qui ne va pas. La violence des débats, on parle de violence numérique et on risque d'arriver à des violences physiques. L'hypocrisie de ce débat, on peut marcher dans la rue avec un hijab, on ne peut pas courir. On peut acheter sur Internet, mais on ne peut pas acheter dans un magasin. Et enfin, la récurrence de ce débat. Ça fait 30 ans que l'on a le même débat sur des sujets différents, mais en réalité qui est le même débat.
Et tout ça, vous trouvez absurde ?
Et tout ça, je termine, il relève d'une confusion entre le droit et la morale, entre le droit, c'est-à-dire qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, et Natacha l'a dit, en France, on a le droit de porter le voile, dès lors que ce n'est pas un voile intégral et qu'on n'est pas à l'école dans l'espace public, et là, ce qui relève de la morale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et il faut sortir de cette confusion-là, savoir quel est le registre du débat. Est-ce que c'est un débat juridique ou est-ce que c'est un débat moral, philosophique, politique ?
Natacha. Je pense que le premier point est en effet que, donc non, bien sûr, ce n'est pas un débat juridique. En revanche, le débat relevant, non pas de la morale, mais des mœurs, me semble tout à fait légitime.
Quelle est la différence, Natacha ?
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est mal. Il s'agit de définir ce qui relève de notre pacte social, c'est-à-dire ce qui relève de la façon dont en France, on organise l'espace public et on pense les rapports entre les individus, les rapports entre les hommes et les femmes.
Mais vous avez entendu les responsables politiques. Pour eux, c'est bien ou mal. En l'occurrence, le président du Sénat, il dit que c'est une conception de la femme qu'il ne partage pas. Agnès Buzyn, pareil.
Il a le droit de dire que c'est une conception de la femme qu'il ne partage pas. Et pour ma part, c'est aussi une conception des rapports hommes-femmes que je ne partage pas. Parce qu'on peut tout de même dire, sans être taxé d'islamophobie, que quelle que soit la façon dont on prend le problème, le fait d'imaginer qu'il y a un devoir pour une femme de se couvrir les cheveux, même si c'est elle-même qui se fixe ce devoir, c'est une façon d'envoyer le message qu'elle est responsable du désir qu'elle suscite chez les hommes et que ce désir pose problème et que la seule solution à ce problème est pour la femme de se cacher les cheveux. Donc ça, c'est une vision des rapports hommes-femmes qui ne colle pas avec ce que nous avons développé au fur et à mesure des siècles dans notre façon de penser les rapports hommes-femmes.
Comme on veut.
Alors, il y a bien sûr la liberté individuelle. Et donc la question, c'est la rencontre entre cette liberté individuelle et une façon d'organiser la société, de vivre ensemble, sans laquelle il n'y a pas de société apaisée.
Gilles.
Alors, d'abord, c'est très important ce que dit Natacha, c'est-à-dire de partir de l'idée que ce n'est pas un débat juridique. Ce qui veut dire donc accepter que on est arrivé à un équilibre. À un équilibre avec l'interdiction du voile à l'école.
Vous trouvez qu'on est arrivé à un équilibre, la polémique de cette semaine?
Non, qu'on est arrivé à un équilibre juridique. Et que donc, ce n'est pas la question. Je pense que ça décrispera beaucoup le débat. Après, reste le débat, disons, d'ordre philosophique dans lequel il y a une tension. Entre, d'un côté, la liberté de conscience, qui est garantie, la liberté de croire ou de ne pas croire, et si l'on croit, de porter le cas échéant un voile, et donc avec la nécessité de respecter les femmes qui portent un voile. Et d'un autre côté, la conception, pour le coup que je partage, du rapport entre les femmes et les hommes, dans lequel il ne faut pas être dupe de ce que le voile est, pour un certain nombre d'islamistes radicaux, un levier pour imposer une certaine vision de la femme. Et donc là, la possibilité d'un combat, mais qui est un combat politique sur le symbole que représente le voile.
Natacha.
Et c'est pour ça que ce sur quoi il faut se battre, c'est avant tout le vocabulaire. Par exemple, ce qui me dérange profondément dans cette polémique, c'est d'entendre certains dire « Vous voulez donc interdire aux musulmanes de faire du sport ?» Non, ce ne sont pas les musulmanes, ce sont certaines musulmanes. Et rien que ce combat pour la précision est essentiel, c'est-à-dire que on peut parfaitement être musulmane, vivre sa foi, sans porter le voile. Il faut le rappeler à chaque fois. De même, parler
et le porter. Et vouloir
aussi
faire du sport.
Oui, bien entendu. Mais de même, et on peut en effet cela, mais on peut aussi, dans ces cas-là, avoir conscience qu'on envoie un message qui est celui dont nous parlions à l'instant avec Gilles sur les rapports hommes-femmes. Deuxième chose, quand on parle de mode pudique, moi, pardon, mais je refuse l'usage de ce terme et je le trouve profondément pervers. Or, il est en train d'être adopté dans les médias par facilité, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment appeler ça. Donc, on reprend les mots des idéologues qui veulent mettre en avant que... Mais c'est un mot idéologique qui consiste à dire qu'en gros, si on ne se couvre pas, on n'est pas pudique. Pardon, c'est un combat culturel essentiel pour les femmes. Je ne pense pas être impudique quand je montre mes cheveux. Et aucune femme ne l'est. Non, mais ça vous fait rire.
Parce que je pensais à vos cheveux.
Oui, qu'ils sont... Bon, je comprends qu'ils ne suscitent pas forcément un désir extraordinaire. Peu importe.
Il y a d'autres
femmes qui ont des chevelures splendides et elles ont le droit de le montrer
vos
sans être accusées d'être impudiques. Non, mais vous voyez, c'est un débat de fond que nous devons mener. En effet, il n'a rien de juridique et il ne faut pas toucher à la loi. Il faut débattre entre citoyens, mais tenir pied à pied sur cette ligne, à savoir que ce n'est pas islamophobe de rappeler que ce morceau de tissu n'est pas anodin et qu'il porte un message qui est un message philosophique majeur.
Encore un mot, Gilles.
Oui, juste pour terminer, reste une question. Est-ce que pour une femme musulmane, pratiquante qui porte le hijab, est-ce que on peut considérer que c'est un progrès qu'elle vienne malgré tout dans une salle de sport au milieu de gens qui sont très différents? Et je dis ça pour le coup d'expérience, puisque moi j'habite dans une banlieue populaire dans laquelle il y a un pourcentage considérable de musulmans. Dans la salle de sport dans laquelle je vais, eh bien, il y a des femmes qui viennent courir et faire des appareils voilés. Et je, alors même que politiquement, j'ai dit quelle était ma position, je pense que ça peut malgré tout être un problème, un progrès, qu'elle soit là, plutôt qu'elle reste chez elle.
Pardon, mais j'ai tendance à penser qu'une femme musulmane pratiquante qui choisit de porter cela pour faire du sport, de celle qui ne reste pas enfermée chez elle. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait là le moindre progrès en quoi que ce soit.
Bon, c'est une autre histoire. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme sport, Gilles?
Alors, là, je cours.
Le grand face-à-face. sur France Inter.
Écoutez, on perd du temps avec ces histoires de négociations pour aboutir à quoi ? Le PS veut sauver sa peau, il y en a qui se disent on se met au milieu, comme ça on a peut-être une chance de ramasser la mise. Certains qui posent comme condition, ça peut pas être cette tête de liste, ou c'est à condition que ce soit ma tête de liste, tout ça, c'est fini. J'ai proposé une votation citoyenne. Faut poser la question aux partis qui n'ont pas voulu.
Vous avez reconnu la voix de Benoît Hamon, c'était mardi dernier lors de la présentation des 30 premiers noms de la liste Génération pour les élections européennes. Vous avez voulu, Gilles, revenir sur cette gauche entre dispersion et disparition. Pourquoi ?
On a publié au début de cette semaine la première grosse enquête à partir d'un échantillon de 10 000 Français.
C'était dans Le Monde, grande enquête menée par Ipsos, voilà, le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès
le
sur les élections européennes.
De disparition, de dispersion certainement, de disparition peut-être de la gauche. Donc je voulais revenir sur cette question, je le fais évidemment avec mes convictions, c'est-à-dire la conviction que la démocratie française a besoin d'avoir une gauche socialiste, écologiste qui soit sur pied. La conviction que diviser la gauche à une visibilité qui est proche de zéro et une représentation qui peut être égale à zéro, parce que quand on est en dessous de 5%, quand on est en dessous de 5%, c'est zéro député. Et donc européen. Aussi bien le Parti Socialiste que Génération peuvent se retrouver sans député, sans SANS et pas CENT après ces élections. Bon, mais je le faisais avec, j'ai fait cette étude avec une interrogation qui était: est-ce que les électorats de Génération, de Benoît Hamon, du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que ce sont des électorats qui sont proches ou est-ce que ce sont des électorats qui sont éloignés ? En d'autres termes, le pari qui était celui de Raphaël Glucksmann, qui a dit « il faut les rassembler et il est possible de les rassembler parce qu'ils sont proches », est-ce que cette analyse était juste ou est-ce que ce que dit Benoît Hamon, ça suffit, chacun a son offre électorale ? Qui a raison ?
Qui a raison ?
Eh bien, qui a raison, c'est
Raphaël.
Eh bien, c'est
notre
Raphaël.
Ami.
C'est Raphaël. Et c'est pas Raphaël parce que c'est notre ami. C'est Raphaël parce que j'ai été frappé, j'ai été saisi de la proximité entre ces trois électorats. Proximité sociologique. Ce sont des électorats qui sont plus féminins que la moyenne, plus diplômés que la moyenne, davantage dans le secteur public, davantage de professions intermédiaires. Ce sont des électorats dans lesquels il y a une proximité européenne incroyablement forte. C'est-à-dire que ce sont des électorats qui sont pro-européens, mais qui ne sont pas, comme l'électorat d'Emmanuel Macron, pour l'Europe telle qu'elle est, mais pour une Europe différente. Ce sont des électorats qui ont une forte proximité politique. On le voit dans le rapport à Emmanuel Macron, ils sont dans le même niveau d'insatisfaction, 10% en gros, qui sont satisfaits du bilan du président de la République. Et enfin, dans une proximité idéologique, quand on les demande où est-ce que vous vous positionnez sur une échelle gauche-droite, eh bien, ils se situent à peu près les trois au même endroit, sur l'espace de cette gauche.
Et donc les conclusions de cette enquête que vous avez menée vous désolent ?
Non, pas du tout.
L'homme de gauche est désolé.
Alors, elle me désole parce que il serait possible d'additionner. On se demande toujours quand on additionne des forces, quand on rassemble des forces, est-ce que 1 plus 1 plus 1, est-ce que ça fait 3 ? Est-ce que ça fait 2 ? Est-ce que ça fait 4 ? Eh bien, une dynamique est possible, ça ne veut pas du tout dire, on le voit semaine après semaine, que cette dynamique va s'enclencher.
Natacha ?
Non, c'est bien le problème, parce qu'en effet, il apparaît à n'importe quel observateur, même sans y mettre la précision qui est la vôtre, Gilles, qu'en effet, a priori, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette idéologiquement entre toutes ces formations. Bien entendu, d'autant plus que l'écologie est devenue la principale matrice d'une pensée du changement, d'une pensée révolutionnaire, et que donc tout l'ensemble de la gauche est en train de se reconstruire avec l'écologie au cœur de son dispositif idéologique. Enfin, de tenter de se reconstruire idéologiquement, hein, pas pour l'instant, pas électoralement. Mais je veux dire, l'écologie est au cœur de la pensée politique de gauche actuellement. Et c'est tout à fait légitime. Tout dépend encore une fois comment on le fait. Sauf que ça pose un problème. C'est que du coup, Yannick Jadot et Europe Écologie Les Verts s'imaginent qu'ils peuvent tirer la couverture à eux puisqu'ils sont justement censés être au cœur de cela. Ils oublient que ça fait très très longtemps qu'ils ne sont plus dans l'imaginaire des citoyens associés uniquement à l'écologie et qu'ils sont plutôt associés à cette idée d'un parti qui a accepté des compromissions pour gouverner sous François Hollande, qui n'a pas porter une dynamique.
Mais vous parlez avec le sourire, ça ne vous désole pas, vous, en l'occurrence, ce risque de disparition, au moins dans les urnes de la gauche française.
Je vais vous dire, je dirige un journal, Marianne, qui depuis 20 ans, puisque Marianne existe depuis 1997, explique que il faut en finir et qu'il faut que le Parti Socialiste explose. Donc, j'ai tendance à penser que ça fait partie des solutions et qu'il faut une recomposition politique. Là, mais c'est justement, ça y est.
Oui, vous n'êtes pas les responsables.
On en est arrivé là et nous n'y sommes pour rien. Ils ont réussi ça tout seuls. Et quand je vois Benoît Hamon qui propose sa votation inclusive pour une irruption citoyenne, je me dis qu'on est encore très très loin de trouver la solution, rien que le vocabulaire est significatif.
Gilles, bon, je connais trop la politique pour ne pas savoir quelles conditions chacun peut poser en sachant pertinemment qu'elle ne peut pas être remplie et que le rassemblement sera impossible. On en est là. Tout ça, au fond, est une question d'état d'esprit. Il y a 20 ans ou 30 ans, lorsque je commençais ma carrière professionnelle, il y avait au Parti Socialiste les Jospinistes et les Fabusiens. Ça ressemble à une période très ancienne. Et on disait, quelle est la différence entre les Jospinistes et les Fabusiens? Eh bien, quand vous êtes dans une réunion, les Jospinistes regardent qui est là et se demandent qui ne devrait pas y être. Et les Fabusiens, quand il y a une réunion, ils regardent qui est là et ils disent qui on a oublié d'inviter. C'est exactement cela, c'est une question d'état d'esprit. Est-ce qu'on est dans une démarche d'exclusion? Est-ce qu'on est dans une démarche de rassemblement? C'est ça la question qui est posée aux différentes composantes de la gauche.
Mais l'enquête que vous avez menée, est-ce qu'elle fait l'autopsie de la gauche française ou est-ce qu'elle décrit une gauche convalescente?
Elle fait pas l'autopsie dans la mesure où on voit que si on additionne, et on voit que ça a du sens de le faire, les trois principales forces, disons Génération, Europe Écologie Verts et le Parti Socialiste, on est entre 18 et 20%. 18 et 20% dans l'éclatement politique que l'on connaît, c'est une réelle force. 5 plus 5 plus 8, ce n'est rien.
Natacha. Alors, à ceci près que ce n'est pas la gauche. C'est une des gauches. C'est cette gauche qu'on peut dire...
Parce qu'on ne compte pas la France Insoumise, par exemple.
Mais oui. Or, une recomposition à gauche doit justement compter avec tout ce prisme et compter avec ceux qui ne sont pas présents sur le prisme. Par exemple, il est assez frappant de constater qu'actuellement, le courant qui pouvait être incarné par Arnaud Montebourg, c'est-à-dire une gauche étatique pour la démondialisation, a totalement disparu.
Mais Arnaud Montebourg lui-même a disparu de la scène politique.
Oui,
il fait du miel.
Oui, bien sûr, mais il n'est pas le seul à pouvoir porter cela, mais c'est très intéressant politiquement de se dire que ce courant-là a disparu. Or, on le voit actuellement avec KLM, avec Ford, il y aurait un sujet là-dessus. Et à côté de ça, cette gauche qui tente de se rassembler, elle est toujours confrontée à la question de savoir quel est son rapport réel à l'Europe. C'est-à-dire que vous disiez, Gilles, avec raison, qu'en effet, elle n'a pas le rapport, l'acceptation de l'Europe telle qu'elle est, qu'incarne le macronisme. En revanche, elle n'a toujours pas résolu la question de savoir jusqu'où elle était prête à aller pour changer l'Europe. Et je pense que c'est le cœur du sujet.
Un mot, Gilles, et on va passer justement à une question européenne.
Juste un mot, ce rapport à l'Europe est précisément la raison pour laquelle le rassemblement entre les trois forces que j'évoquais, Europe Écologie Les Verts, Génération et le PS, a du sens. Et aller au-delà, et notamment inclure toute la gauche et la France Insoumise, n'en aurait pas, parce que les sympathisants, les électeurs de la France Insoumise sont beaucoup moins pro-européens que les autres.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
L'accord de retrait ne peut être renégocié. Si les Britanniques ont besoin de davantage de temps, nous pourrons examiner une demande d'extension si elle est justifiée par de nouveaux choix des Britanniques. Mais nous ne pourrons en aucun cas accepter une extension sans une perspective claire sur l'objectif poursuivi.
Nous sommes à un mois jour pour jour avant la date prévue pour le Brexit et c'était donc mercredi. Emmanuel Macron s'était dit prêt à examiner une demande de report du Brexit de la part de Londres. Est-ce qu'il faut laisser plus de temps aux Britanniques pour préparer leur sortie? Quand vous entendez le président de la République, est-ce que vous entendez un discours de conciliation ou au contraire, est-ce que vous entendez la menace d'une punition? Natacha ?
C'était pas très très conciliant comme façon de présenter les choses là et je ne pense pas que c'était le but. Je pense qu'il s'agit d'envoyer le message selon lequel les Britanniques doivent aller au bout de leur logique, enfin ou se soumettre. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est plutôt l'évolution des points de vue britanniques. C'est-à-dire, on a là depuis le début j'allais dire, quand même une certaine leçon de démocratie. Dans le sens où Theresa May, qui était opposée au Brexit, fait tout son possible pour arracher un accord qui soit le meilleur possible pour son peuple. Et dans un certain sens, on a là un exemple d'acceptation de ce qui a été voté. C'est d'ailleurs pour ça que, après, la question de savoir
comment
si... depuis 2 ans, finalement, les Britanniques ont plus ou moins, chez une majorité de leurs dirigeants, accepté l'idée que le peuple s'était prononcé. À ceci près, donc, qu'on voit réapparaître cette idée d'un second référendum. Idée portée par Tony Blair, par la frange ce qu'on appelait la nouvelle gauche.
Par Jeremy Corbyn.
Alors Jeremy Corbyn, c'est
un peu plus compliqué, mais il a ouvert
plus compliqué. Je ne suis pas certaine que Jeremy Corbyn soit ravi à l'idée qu'on abandonne le Brexit. Son intérêt, et c'était cela qu'il jouait jusqu'à présent, c'était au contraire qu'il y ait le Brexit et qu'il arrive ensuite pour porter la politique qui est la sienne et qui n'est pas forcément compatible avec le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.
Gilles.
L'impression qu'on peut avoir quand on regarde l'actualité depuis une semaine, c'est que ça commence à bouger. Que ça commence à bouger des deux côtés. C'est-à-dire que ça commence à bouger du côté des travaillistes comme ça commence à bouger du côté des conservateurs et les uns et les autres sous la pression interne de députés qui n'acceptent pas la position de leur leader. Ça bouge parce que pour la première fois, Jeremy Corbyn dit peut-être un deuxième référendum et ça bouge parce que Theresa May, pour la première fois, dit peut-être un report. La question, c'est est-ce que ça bouge en apparence ou est-ce que ça peut bouger réellement? Et c'est là où on peut être plus inquiet. La perspective d'un deuxième référendum, malgré tout, est relativement peu crédible. Et l'utilité d'un report, on l'a vu dans le son que vous venez de passer d'Emmanuel Macron, l'utilité d'un report est soumise à une question. Pourquoi faire? Il ne pourra de toute manière être que court, parce que entre temps il y a les élections au Parlement européen et donc il faut qu'on soit fixé. Parce que
s'il y a un report, c'est ce que disait Jean-Louis Bourlange à l'antenne de France Inter, est-ce qu'il faudra du coup que les Britanniques votent pour les élections européennes alors qu'ils quittent l'Union? Enfin, c'est vrai que ça crée des situations folles et absurdes.
Ça ne peut être que court et il faut savoir pourquoi faire. On ne sait toujours pas ce que les Britanniques veulent. On est à un mois. Le malheur, c'est que...
Donc il faut les punir.
Il faut pas les punir. Le malheur est que les deux leaders britanniques, Theresa May et Jeremy Corbyn, sont sans doute les pires que le Royaume-Uni ait connus depuis longtemps. Leçon de démocratie, disait Natacha. Le problème est que les Britanniques continuent de croire qu'ils sont une île et que la Chambre des communes est le centre du monde. Et donc, il y a des débats picrocolins chaque jour sur des amendements et des sous-amendements sans regarder ce qui se passe par ailleurs, et pendant ce temps-là, l'horloge tourne et l'hypothèse d'un no deal est de plus en plus crédible.
Natacha.
Gardons-nous des jugements sur les pires dirigeants qu'aient pu avoir les Britanniques. Eux-mêmes, parce qu'ils sont justement profondément démocrates, ont jugé le bilan, par exemple, de Tony Blair, en particulier lors des interventions de leur pays au Proche-Orient, ce que nous n'avons pas fait. Donc, leçon de démocratie de la part des Britanniques, la capacité à mettre en cause des gens qui ont eu une responsabilité absolument tragique dans l'état du monde aujourd'hui. Donc les dirigeants britanniques d'aujourd'hui sont peut-être pas complètement les pires.